Bonjour, Michel Terestchenko, professeur agrégé de philosophie, est intervenu en octobre 2008 dans le cadre des lundis philo du Pianotel de Bouguenay sur le thème « Que font les démocraties face au mal ?». Il est l'auteur d'un essai paru aux éditions de La Découverte « Du bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l'injustifiable ».
Il n'y a aucune émission de télé, enfin de série de télévision qui est davantage fait pour... pour promouvoir cette justification de la torture que la série 24 heures, qui est à la fois extraordinairement bien faite, efficace et terriblement perverse. Et si on n'a pas les clés pour démonter ce système et l'idéologie sous-jacente, on est véritablement piégé. Et du reste, elle a eu un succès considérable, aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier. Et c'est loin d'être un simple divertissement, parce qu'il y a derrière, en réalité, en effet, toute une idéologie sous-jacente et qu'il s'agit de pouvoir contester, démonter, critiquer, remettre en cause, etc.
De 10h à midi.
Je veux que Karen Hayes soit hors circuit.
Je comprends, monsieur.
Il faut que le président signe mes propositions. Elle n'est plus seulement une emmerdeuse, elle est devenue un obstacle.
C'est une illustration de la manière dont la fiction, et en particulier la fiction télévisée, s'est emparée de ce paradigme de la bombe à retardement qui justifie la pratique de la torture en situation d'exception, pour la populariser. Mais ce n'est pas cette idéologie a été construite de façon beaucoup plus sophistiquée par des théoriciens, par des penseurs, par des... etc.
Que Burke se tienne prêt avec le matériel d'interrogatoire.
Jack.
Quoi ?
N'oubliez pas que pour l'instant, McCarthy est notre seule piste pour Fayed. Il faut trouver Fayed avant qu'il ait le temps d'armer ses bombes.
Je prends contact avec l'équipe de terrain et je vous rappelle. Faut qu'on y aille.
La date charnière, c'est le 11 septembre.
Ah oui, incontestablement. Oui, oui. C'est vraiment la date charnière. Oui, oui. Oui, parce que tout a basculé à partir de ce jour-là. Du jour au lendemain, il y a tout un travail de casuistique juridique qui s'est développé chez les juristes de l'administration américaine, rendant possible toutes les dérives auxquelles on a assisté par la suite, mais justifiant que soit suspendue toute la prohibition de la torture et toutes les dispositions réglementant le traitement des prisonniers de guerre. Et donc tout le droit humanitaire international. Donc oui, c'est vraiment la date charnière, ça, absolument.
Alors tout le monde n'a pas été à l'école des jésuites, on a parlé de casuistique.
Ouais, c'est-à-dire une interprétation extrêmement sophistiquée des textes du droit international et aussi du droit interne américain pour justifier que les dispositions qui protègent les prisonniers de guerre et qui ont été édictées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les conventions de Genève, etc., soient suspendues à l'endroit des talibans et aussi bien que des membres des réseaux d'Al-Qaïda, de telle sorte que toutes les protections, en effet, dont ils faisaient objet, incluant la prohibition radicale de la torture, soient suspendues. Au reste, on ne parle jamais de torture, on parle de méthode d'interrogatoire coercitive. Et de, je crois, les techniques qui sont employées, il y a tout un débat sur savoir est-ce que c'est de la torture ou pas, parce que ce sont des tortures qui se relèvent souvent davantage de méthodes dites psychologiques que de tortures proprement physiques. Comme ce qu'on a vu à Abu Ghraib, où ce n'est pas de la torture physique, ce sont des formes de torture psychologique. Mais les Américains, depuis les années 50, ont théorisé ça, développé des programmes de recherche financés à hauteur de milliards de dollars, pour mettre au point justement ces techniques pour briser la personnalité du détenu par des méthodes qui sont des méthodes plus psychologiques que physiques. Il suffit de poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la torture? Je pense que que l'immense majorité des gens diront, mais comment est-ce que vous pouvez imaginer que je sois pour la torture? Donc tout le monde est contre. Mais si ensuite vous mobilisez cette hypothèse, oui, mais imaginez qu'on ait arrêté un terroriste selon cette parabole de la bombe à retardement, qui est une fiction, hein, parce qu'il faut ajouter, ce que je montre dans le livre, c'est que c'est fondamentalement une fiction, c'est un jeu pervers de l'esprit, il n'y a aucune réalité qui corresponde à cette situation où la torture aurait jamais... Et tout le travail du livre est de démonter cette argumentation-là.
si on prend votre enfant en otage dans une classe maternelle.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est des exemples que vous citez comme ça.
Tout à fait, oui. Et alors là, donc la personne la plus sûre d'elle-même et la plus convaincue d'être hostile à la pratique de la torture est tout d'un coup désarçonnée et se trouve confrontée, en effet, à une espèce de perplexité qui ouvre la voie, en effet, à la justification. Et le plus incroyable dans ce système, dans cette idéologie libérale de la torture, c'est que la justification n'est pas une justification simplement juridique, c'est pas simplement une justification prétendument réaliste, c'est une justification morale. Là, on croit que la morale est ce qui va venir s'opposer à la pratique de la torture et constituer un véritable garde-fou. Elle est en réalité... Elle peut parfaitement légitimer la pratique de la torture... dans une conception dite utilitariste où le fait de faire souffrir une personne ne compte pas si on peut par ce moyen sauver des centaines ou des milliers de...
Bill, c'est Jack. Chloé a tiré quelque chose des disques durs.
Non, rien du tout. Mais il y a 15 minutes, la NSA a intercepté une conversation entre McCarthy et Fayed. Apparemment, McCarthy a trouvé un ingénieur pour reprogrammer les détonateurs. Un ingénieur disponible dans l'heure.
Donc les bombes seraient opérationnelles dans 3 quarts d'heure.
C'est ça.
Je vous rappelle.
Est-ce que vous pouvez justifier le recours à la torture ?
Non.
Non.
Même que a été toujours utilisé par des causes théoriquement divines, sacres, etc., de l'Église catholique jusqu'à tous les régimes, presque tous les régimes existants, ont utilisé la torture comme un outil de répression. Point à la ligne, c'est ça ma définition, disons.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des situations où la torture puisse être légitime ?
À mon avis, aujourd'hui, pas. Au passé, pour moi, est difficile de justifier.
Non, aujourd'hui, je veux dire.
Non. Dans aucun cas.
L'argument qui est généralement employé est le suivant. Imaginez qu'on ait arrêté un terroriste dont on sache qu'il ait posé une bombe dans une école dans laquelle se trouveraient vos enfants.
Oui.
Il est arrêté. On sait que l'explosion de la bombe est imminente. Il refuse de parler. Par toutes les méthodes d'interrogatoire classiques, légales, est-ce que dans ce cas-là, pour sauver la vie des enfants, et en l'occurrence peut-être la vie des vôtres, la torture vous paraîtrait légitime ?
Vous avez introduit un élément très important, bien sûr. Dans ces cas-là, je dois dire oui.
Ah, vous voyez ?
Oui.
Vous voyez ?
J'avais dit oui. Comme norme, en principe. Dans ces cas-là, oui. Parce qu'un terroriste est une personne... Et ça pourrait être la justification, c'est une personne qui accepte la torture. Donc, disons, c'est le payer avec la même monnaie, disons.
Donc vous voyez quand même que vous étiez sûr que non, et puis il suffit de mobiliser une petite hypothèse.
J'avais dit que vous avez introduit un élément qui
n'existait. Et qui fait tout basculer.
Oui, c'est clair.
Et qui fait tout basculer. C'est clair. Est-ce que vous pensez que cette hypothèse est réaliste ?
Malheureusement, oui, cette hypothèse peut être réaliste. Oui.
Et dans ce cas-là, il est légitime pour une démocratie de pratiquer, en effet, la torture d'exception, une torture contrôlée, exceptionnelle.
Dans ces cas en particulier, oui, et je crois que ça doit être considéré cas par cas, parce qu'il y a deux éléments, à mon avis, qui, entre guillemets, justifient ça. D'abord, nous sommes en face d'un type qui justifie d'abord la torture, c'est-à-dire en terroriste. Et deuxièmement, nous sommes en train de faire le bilan entre une vie et plusieurs vies. Donc, d'accord, ces deux principes, je dirais oui.
Et qu'est-ce qui doit advenir, qui devrait prendre la décision ? Qu'est-ce qui doit advenir de quelqu'un qui prendrait cette décision ? Est-ce que...
Ah, bonne question, mais je refuse. Je ne suis pas qualifié pour répondre. L'administration devra... implémenter une structure valable, opérative, pour avoir le chemin, les mécanismes.
Est-ce qu'il devrait rendre compte de cette... Est-ce qu'il devrait rendre compte, être obligé de s'expliquer ?
À mon avis, sans doute, parce que les décisions de nos représentants, à la fin, doivent être un réflexe de, disons, la philosophie générale de la citoyenneté.
Est-ce que vous pensez que sur la base d'une hypothèse de ce genre, on n'ouvre pas la porte, on risque pas d'ouvrir la porte à toutes les dérives ? À toutes les dérives, que toute personne peut se trouver suspectée d'être
peut-être, je ne sais pas.
Oui.
Je sais pas.
Il n'y a pas un seul exemple qui ait jamais pu être donné où la torture aurait empêché l'explosion d'une bombe imminente, il n'y a aucun exemple qui a été donné. Mais elle se présente comme une hypothèse extrêmement réaliste et extrêmement vraisemblable. En fait, si on la creuse un tout petit peu, on s'aperçoit qu'elle est totalement imaginaire. C'est impossible, elle ne correspond à aucune réalité reconnue, et si on la déconstruit davantage, elle est même quasiment... Enfin, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre en particulier, justement. Mais c'est très intéressant, votre réaction, elle est extrêmement révélatrice de... Non, je pense de la façon... Non, parce qu'il y a beaucoup...
J'essaie d'être tout simplement honnête.
Honnête, oui, c'est ça. Honnête. Mais beaucoup de penseurs qui ont réfléchi à la question ont adopté la même solution que la vôtre, de façon avec un... Mais au fond, on dit à peu près la même chose que vous. Et donc, c'est pas si évident, si on veut critiquer ça, vous dites, oui, mais alors vous voyez, finalement, vous avez admis ce qui était impossible.
Oui,
et...
bon, mais
on admet, pas vous, je veux dire. On est conduit à admettre, pas vous, simplement. Oui. C'est pas une faute, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais qu'on est conduit à suspendre des principes que l'on croit absolument inconditionnels, et il suffit de présenter cette hypothèse-là. Du coup, la prohibition devient beaucoup plus, ou l'interdit devient beaucoup plus fragile.
Peut-être sera une des façons pour une future évolution de la société. Une citoyenneté mature comme la française, je pense que beaucoup plus bien préparé pour accepter une chose comme ça par rapport à l'espagnol. Parce que vous avez beaucoup plus de siècles de démocratie avec un sentiment...
C'est pas sûr.
À mon avis, je dirais oui.
Ouais, peut-être.
Non, bah, nous sommes, disons, plus... extrêmes.
Ah, vous pensez que l'Espagne est plus fragile
Ah, absolument.
Oui.
Que ces commentaires, étant donné que...
Je ne parle pas des institutions. Hein. C'est vrai, les institutions, oui.
Beaucoup plus jeunes.
Oui.
Si vous comparez la...
Mais les citoyens aussi, vous pensez, sont plus... Sont...
Encore, oui. Malheureusement, oui.
Oui. Vis-à-vis de l'IRA, par exemple. Ou je veux dire, l'ETA, pardon, excusez-moi.
J'avais compris. Je dirais que ça, c'est pas nécessairement... est aussi une preuve de la manque de culture démocratique que nous avons en Espagne.
Ah oui.
N'oubliez pas que nous avons eu un dictateur,
oui, oui,
ami de Hitler, de Mussolini,
oui,
qui est mort, qui l'a mausolée, encore, mausolée, hein,
oui,
une tombe magnifique. Il y a encore des doutes, il y a encore des gens qui lui rappellent.
Oui.
La droite espagnole vraiment la plus classique,
oui,
est une chose, je dirais, vraiment embêtante, pour ne dire pas une autre chose.
Oui.
Donc, cette façon d'évoluer dans le sens d'accepter certains principes que jusqu'au jour d'aujourd'hui ont été indiscutibles, pouvoir les discuter,
oui,
je pense que dans le premier monde démocratique, ça peut venir, parce disons que l'utilisation de le terrorisme comme un outil pour quelqu'un qui n'a pas un pouvoir dans l'ensemble du monde, de dire « je suis ici », chaque fois bien plus cette attitude. Donc, c'est pas, hein, de toute façon.
Monsieur, votre prénom?
Je m'appelle Raymond.
Raymond.
Raymond. Raymond à la française. Raymond, c'est catalan.
On visite à Nantes?
Oui.
Bon séjour.
Merci beaucoup pour m'avoir écouté.
Ah non,
il faut être patient pour m'écouter. Hein.
Non,
quand je démarre, c'est difficile de m'arrêter.
Très bien tombé, oui.
Merci.
Merci à vous,
merci,
bonne chance.
Enchanté.
Merci. Au revoir.
C'est un neuro-inflammatoire qui provoque la douleur. Si tu veux éviter que je m'en serve, dis-moi où est McCarthy. Tu en sais autant que moi. De cesser.
Il a dit, je réponds honnêtement.
Oui. Ça, c'est une grande question, oui. Parce que, enfin bon, il faudrait parler de ça, mais moi, j'ai très longtemps été piégé par cette parabole et par cette situation. Et moi aussi, j'étais honnêtement coincé. Et j'ai mis des mois et des mois avant de trouver la voie de sortie. Pas parce que je cherchais la voie de sortie, mais parce que, tout simplement, elle s'est imposée honnêtement aussi à moi, par honnêteté intellectuelle. Et vous avez tout à fait raison, l'honnêteté intellectuelle, et de dire c'est quelque chose qui doit être réglé au cas par cas, c'est une réponse effectivement honnête. Mais ce que les gens ne voient pas, et même des penseurs de très haute volée, c'est que précisément cette hypothèse ou cette parabole est une fiction qui ne correspond à aucune réalité. L'idée qui est qu'on arrête le terroriste, qu'on va le torturer, et que dans les deux minutes, il va donner, et que l'explosion de la bombe va être évitée, et qu'on va sauver. Du coup, en plus, ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette affaire, c'est que du coup, le tortionnaire, qui est comme une figure extraordinairement noire, apparaît comme un sauveur. Une espèce de dimension comme ça, Et ça, dans 24 heures, c'est très très frappant.
Je peux aller jusqu'à 7 cc. Tu éprouveras une douleur impossible à décrire. À 8 cc, tu cours le risque de faire un infarctus. Graham, que ce soit bien clair, j'irai jusque-là s'il le faut. Je t'en supplie. Réponds seulement à ma question.
Oui, alors ça, j'ai expliqué bien sûr tous les ravages psychologiques que la torture fait sur les tortionnaires eux-mêmes. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré ça. Ils ne sortent pas du tout indemnes de cela, non. Non, mais alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant, que non seulement le tortionnaire est un héros messianique, quasiment, mais il est en plus une espèce de héros sacrificiel. Parce qu'il se sacrifie lui-même, il sacrifie sa propre conscience, il sacrifie ses propres principes dans une espèce de figure extraordinairement quasiment romanesque, ou en tout cas fictive, comme celle de Jack Bauer dans la série 24 heures. Qui lui donne toutes les apparences d'un tortionnaire noble. Mais alors ça va quand même très loin, parce que dans le livre j'ai montré par exemple comment l'exemple de Jack Bauer a été réutilisé par un juge de la Cour suprême des États-Unis dans une conférence au Canada pour justifier précisément la torture dans ce cas-là. Un juge de la Cour suprême des États-Unis qui va justifier la pratique de la torture sur la base de ce qu'on appelle maintenant, de ce qu'on peut appeler la jurisprudence de Jack Bauer, et qui s'est trouvée très présente chez les soldats américains aux États-Unis, en Irak, les soldats américains en disant « Mais vous voyez, Jack Bauer torture et ça empêche de sauver. » Et donc l'armée américaine est obligée de lutter contre les effets pervers de cette série jusque chez les soldats américains en Irak.
On dit long aussi
sur l'impact terrible, absolument. Ouais. Et la fragilité de nos représentations, de nos certitudes, de nos convictions morales, jusque chez un juge de la Cour suprême. Et j'ai pris d'autres exemples de gens qui sont piégés en quelque sorte par cette parabole.
C'est notre incapacité à réfléchir, incapacité à prendre le temps, à se laisser entraîner.
Oui, entraîné et par l'émotion dans l'urgence de la situation, mais aussi pour quelqu'un, quand on y réfléchit, par une imagination. Parce que là, c'est une parabole purement imaginaire et purement fictive en réalité. Et effectivement, c'est le piège d'une imagination. Il suffit de dire imaginez que. Et ça, c'est très dangereux.
Ça suggérait que les théoriciens sont maintenant des scénaristes d'Hollywood ?
Non, pas exactement, mais en tout cas, il est clair que, par exemple, le producteur de la série 24 heures construit tous ses scénarios, ses scénarii, sur la base de la bombe, de cette hypothèse de la bombe à retardement, telle qu'elle a été en effet reprise et analysée par un certain nombre de théoriciens, et qui sont en effet des théoriciens de gauche, pas des théoriciens de droite. Donc ils ne sont pas directement, évidemment, les scénaristes d'Hollywood, mais ils alimentent d'une certaine manière toute cette construction théorique. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, toute l'argumentation est une argumentation. La torture est une pratique réelle, effective, concrète, absolument atroce et épouvantable. Mais derrière ça, elle peut faire l'objet de toute une réflexion extrêmement abstraite et extrêmement théorique. C'est vraiment le caractère extrêmement abstrait et sophistiqué des arguments qui sont présentés et qui est frappant.
Il y a d'autres exemples ?
Oui, voilà. Mais par exemple, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce type de problème, je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais en fait, c'est le même type de problème que l'euthanasie active. Une situation d'exception où la violation de la loi est justifiée et pose le problème de savoir qui doit prendre la décision. Est-ce que c'est le médecin ? Est-ce que c'est l'individu ? Est-ce que c'est le patient lui-même ? Est-ce que c'est le juge ? Est-ce que c'est le législateur ? On a structurellement un problème théorique assez semblable, qui aussi est assez proche du problème du tyrannicide. En fait, le problème de la justification de la torture en situation d'exception, comme le problème de l'euthanasie active, comme le problème du tyrannicide, sont des problèmes qui sont des problèmes théoriques, moraux, très proches, qui sont liés par de très puissantes analogies.
L'interview de Michel Terestchenko, auteur du Bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, paru aux éditions de La Découverte, a été enregistrée à l'occasion de son intervention, programmée en octobre 2008, dans le cadre des lundis philo du Pianoctel de Bouguenay.
Aussi rapidement peut-on renoncer en quelque sorte à ces principes lorsque l'on présente une parabole aussi saisissante et qui vous prend à la gorge comme ça, mais on peut aussi très rapidement la dégonfler. C'est-à-dire qu'elle s'effondre au fond très très rapidement, pour peu qu'on montre précisément son caractère totalement imaginaire et fictif et ne correspondant à aucune réalité réelle. Le seul problème, c'est qu'il faut présenter l'argumentation. Parce qu'au début, on croit, comme ce monsieur, Ramon, voilà, que c'est en réalité tout à fait réaliste. Or, en réalité, c'est tout à fait irréaliste. C'est-à-dire qu'on justifie la torture sur des bases d'une argumentation de type réaliste, machiavélienne, la nécessité d'entrer dans le mal dans certaines circonstances, alors qu'en réalité, non seulement la torture est inefficace, mais en plus, elle est justifiée par toute une construction totalement irréaliste.